RCF.
Bien, mais je mettrai la gomme comme disent les jeunes.
Mais c'est génial! Attends la bonne nouvelle!
Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour votre petite promenade culture et détente sur les ondes en fin d'après-midi. Alors sur le chemin aujourd'hui, avec le retour du printemps, c'est la ruée dans les jardineries. Oui, mais quel conseil pour bien réussir vos plantations? 5 commandements à suivre avec Pascal Aspe dans le rendez-vous jardinage du jeudi. Et puis une scénariste célèbre invitée à donner une masterclass dans une école de cinéma dirigée par un ancien amour de jeunesse. C'est le cours de la vie, le coup de cœur de Valérie de Marnac cette semaine. Lui, c'est avec ses crayons et ses pinceaux qu'il a gagné sa notoriété. Et l'une de ses toiles en particulier va être l'occasion d'une belle leçon de peinture que va nous délivrer notre invité. Bonjour Anne de Marnac.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Anne de Marnac, vous êtes l'auteur de beaux livres d'essais d'anthologie. Vous avez notamment consacré plusieurs ouvrages sur les représentations picturales et littéraires de la séduction. Et vous venez de publier aux éditions Henri Dougier « Les liaisons dangereuses selon Fragonard ». C'est un livre, ou plutôt une enquête passionnante sur l'un de ses tableaux les plus célèbres, à savoir le Verrou, qui a été réalisé en 1777, exposé aujourd'hui au musée du Louvre. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette porte et cette œuvre en apparence libertine? Vous allez nous l'expliquer. Ouvrons donc le Verrou avec Anne de Marnac. C'est parti.
Tout doux avec Vincent Belletti.
Il sourit. Cette fois, ce sera différent. Il le sent, il le sait. En quittant la demeure du marquis de Véry, située rue des Saints-Pères, Fragonard a hâte de regagner son atelier au Louvre. L'idée le séduit. Plus que cela, elle éveille en lui une fougue qu'il croyait éteinte. Cette fougue qui l'a fait mener si souvent plusieurs œuvres de front, toucher à tous les genres, varier sans cesse ses sujets. L'audace du projet lui plaît. Jamais on ne lui avait fait proposition aussi provocante.
Voilà, mais qu'est-ce qui peut donc réjouir autant Fragonard? Quelle est l'audace de ce projet? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans votre livre, Anne de Marnac. Mais d'abord, peut-être une explication sur ce fameux tableau, le Verrou. Est-ce qu'on pourrait le décrire en quelques mots? Alors, on est à la radio, c'est un petit peu difficile. Est-ce que vous vous lancez dans l'exercice ou pas?
Je vais essayer. Oui. Alors le Verrou montre une chambre où à gauche il y a un baldaquin avec des tentures rouges, cramoisies, un lit dans un extraordinaire désordre. À droite, l'espace est complètement dénudé, on voit une porte, la tige métallique d'un verrou. Et au milieu, centre de et cœur de toutes nos attentions, il y a un couple qui s'estreint. Un couple éperdu qui semble esquisser un pas de deux amoureux, une chorégraphie mystérieuse. Elle, elle a une robe aux couleurs or, qui sont dans la traîne, semble s'éterniser sur le lui. Lui, il est de dos, les deux visages se regardent, et en fait, sa main déployée, la main déployée de l'homme, tente de fermer le verrou. Et le... toute l'ambiguïté de la scène est là. Voilà. Est-ce qu'elle est entrée? Pour qui? Pourquoi? Contre qui ce verrou a-t-il été poussé? Qu'est-ce qui se passe dans ce tableau? Et en plus, très malicieusement, on y reviendra peut-être, Fragonard disperse des indices symboliques dans la toile. Un bouquet de fleurs jeté à terre, une rose posée sur le lit et une pomme rouge et ronde qui se trouve à la gauche de ce lit extraordinairement défait.
Voilà pour la description très précise et très complète. Bravo Anne de Marnac pour cette toile. Alors j'invite aussi les auditeurs, s'ils ne connaissent pas cette toile, elle est sur internet, tapez tout simplement le verrou de Fragonard et comme ça vous aurez l'image sous les yeux. Alors c'est vrai que c'est un tableau qui pose beaucoup de questions, qui a été effectué dans un cadre aussi très particulier, on va y venir. Mais d'abord un petit retour sur votre propre parcours, Anne de Marnac. Vous êtes normalienne, sortie d'ailleurs major de votre promotion. Vous êtes venue éditrice et auteur, je le disais, de nombreux ouvrages historiques avec notamment des anthologies sur l'amour, la beauté et l'art de la séduction féminin. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans ces thèmes et notamment la séduction?
Alors en fait, ma démarche, elle est partie avec l'idée de mettre en perspective ces thèmes, la séduction, la beauté, d'essayer d'explorer au fil de l'histoire les représentations successives qui avaient été. On est dans une époque qui emblématise la beauté, qui souvent la représente sous forme d'injonction. On est dans une époque qui parle énormément de la séduction. Et ce que j'ai voulu, à travers un parcours historique, passant par les romans, par l'étude de textes littéraires, par la poésie, par l'étude de textes picturaux, c'est de montrer comment ces canaux pouvait être extraordinairement changeant. Si on prend l'histoire de la beauté, vont se succéder à le critère absolu de la blancheur au féminin, la révolution du bronzage, le critère et l'éloge des rondeurs et la recherche éperdue et le dictat de la minceur aujourd'hui. Ouais. Et si l'on prend les jeux de la séduction, on voit aussi comment, en fait, il y a à la fois les représentations, mais aussi le sens qui est donné au jeu de la séduction se transforme. Alors, par exemple, je reviens sur l'exemple de la beauté, au cœur de la Renaissance, est un idéal spirituel. Elle est le reflet de la splendeur divine. Au XVIIIe siècle, elle va être au cœur d'intrigues, de conquêtes, des jeux du libertinage. Au XIXe siècle, il va s'agir de séduire pour réussir, comme on le voit à travers les héros balzaciens et stendhaliens. Donc, chaque époque apporte son prix.
Voilà, son évolution.
Voilà. Et le désir que j'avais avec cette remarque, cette recherche historique, c'était de permettre peut-être aux lecteurs d'aujourd'hui de relativiser ce qui est présenté comme un absolu ou un impératif catégorique.
Voilà, ce qui était beau aujourd'hui, ce qu'on considère comme moins beau aujourd'hui, ce qui est beau aujourd'hui est moins beau lors de siècles précédents. C'est vrai que c'est une démarche qui est tout à fait intéressante. Alors, on va revenir à ce fameux verrou de Fragonard, Jean-Honoré Fragonard, hein, c'est son nom. Il est né à Grasse en 1732, un fils de Gantier. Comment est-ce qu'il est devenu peintre? En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer?
Alors il vient, sa famille s'installe à Paris, très vite on remarque ses dons, il va travailler dans l'atelier de Chardin, puis dans l'atelier plus longuement de François Boucher qui va le former au pastoral amoureuse, aux toiles galantes de l'époque. On est vraiment à la naissance du règne de Louis XV, et il a un parcours en fait d'élève prodige, il a un parcours éclair assez fulgurant, c'est-à-dire qu'il va entrer dans l'école royale des élèves protégés, remporter le grand prix de l'Académie royale, il va être à l'Académie France pendant 4 ans en Italie. Il va ensuite être agréé par l'Académie royale, salué par la critique. Il obtient alors un logement très très convoité au Louvre et un atelier. Et ce peintre, qui est un peintre qui a une œuvre effervescente, multiple, pléthorique, il est d'abord celui qui est assujetti à ses commandes royales, au jeu assez impitoyable des salons. Par exemple, Fragonard, il est encensé par Diderot, qui n'est pas le plus tendre des critiques artistiques. Et 2 années ou 3 années plus tard, alors qu'il présente un morceau de peinture dans l'arène publique des salons, qui sont un groupe d'enfants dans le ciel, Diderot va avoir ce mot terrible de dire l'omelette de Fragonard. Ouais. Il va parler de sa fricassée d'ange dans le ciel. Ouais. Et Fragonard, donc, il se retrouve pris dans cette époque impitoyable, et très tôt on va lui reprocher d'avoir abandonné ce pourquoi il avait été recruté.
Histoire, ce qu'on appelait la grande histoire, c'est-à-dire c'est les figures mythologiques, voilà, un petit peu académiques, hein, et finalement il va se retrouver donc à avoir ces commandes donc que lui font les grands de ce monde, commandes d'ailleurs et commanditaires qui vont pas être toujours au rendez-vous lorsqu'il s'agit de payer justement ces tableaux. Vous donnez pas mal d'exemples. Ce fameux verrou, alors c'est une commande que va lui faire le marquis de Véry. Le marquis de Véry, ça fait partie de ces hommes qui sont des collectionneurs éclairés, hein, pour qui tous les tableaux sont des véritables œuvres d'art. Enfin, en tout cas, il a un regard très connaisseur. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce fameux verrou que Fragonard va lui présenter d'abord en esquisse, eh bien, va servir de pendant à une toile que Fragonard avait peint 2 ans plus tôt, à savoir l'Adoration des bergers. Alors, c'est un tableau qui représente la Vierge Marie qui présente l'enfant Jésus devant des bergers qui se prosternent. Alors, c'est une œuvre religieuse, bien loin d'une scène où 2 amants s'étreignent passionnément dans une chambre. Comment expliquer, et c'est vraiment la question qui vient tout de suite à l'esprit, comment expliquer ce lien a priori bien différent entre ces 2 œuvres, entre le spirituel et le charnel?
Alors c'est une rencontre qui est saisissante, hein, une rencontre irrévérencieuse. Et ces tableaux n'étaient pas destinés à être exposés, ils étaient là pour faire plaisir à ce collectionneur et cet amateur éclairé qui aime la peinture française. De peintres alors débutants non confirmés, donc en ce sens il se montre audacieux. Cette paire en fait D'abord, elle obéit à un principe qui est très à la mode, qui est le principe des pendants.
Voilà.
C'est un principe que va pratiquer Hubert Robert avec des ruines,
voilà.
Des diptyques, voilà, où Joseph Vernet avec les marines, eux vont en faire un principe. Fragonard a peint très peu de paires, ce qui rend d'autant plus saisissant ses pendants. Donc, on peut se dire qu'il y a un idéal de symétrie, de toile du même format. Ça va satisfaire l'œil du collectionnaire qui aime à agencer, à mettre en scène sa collection.
Mais enfin, quand même, les deux esprits, c'est quand même très, très, très différent entre une entrée passionnée et une adoration de la Vierge.
Absolument. Ouais. Et donc, quand il y avait une association classique, par exemple, une marine vue à l'aube, une marine vue le soir, on pouvait comprendre le jeu de correspondance entre les deux toiles. Là, c'est complètement saisissant. Alors, moi, j'ai essayé de chercher les liens qui unissent et qui, finalement, donnent cette force extraordinaire à cette scène et qui font qu'il ne s'agit pas d'une simple scène galante, libertine, joyeuse, ce qu'on appelait une polissinerie à l'époque. Pour moi, en fait, il s'agit de deux tableaux qui nous parlent du ravissement, du transport. Qu'est-ce que c'est que le transport? Qu'est-ce que l'amour qui nous porte à être hors de nous-mêmes? Et dans la scène de l'adoration des bergers, c'est une vénération, cette vénération des bergers inclinés. Il y a ce clair-obscur d'une lumière qui émane de l'enfant Jésus et qui va nimber le visage de la Vierge. Mmh. Et dans ce pas d'eux amoureux où elle se défend tout en s'abandonnant, on a cette idée d'un ravissement complet. Ces personnages, ils sont ravis eux-mêmes par une émotion plus forte. Et je crois que c'est vraiment le lien qui unit ces deux toiles beaucoup plus qu'un parti pris irrévérencieux auquel se plaisaient certains contemporains de Véry. Et il y a aussi quelque chose qui, pour moi, reflète le sens extrême de la peinture qu'avaient Véry et Fragonard. C'est que les deux tableaux, ils sont construits sur un équilibre semblable. On a une diagonale invisible qui fait qu'il y a une partie du tableau qui est très, très pleine, très chargée, et une partie du tableau qui est beaucoup plus vide, mais ce vide est plein de sens. Et puis surtout, il y a cet élément qui relie les deux tableaux, c'est la pomme rouge.
Voilà, on en parlait justement de cette pomme rouge, parce qu'il y a pas mal d'indices justement qui sont disséminés dans ce tableau. En tout cas, ce qui peut les relier, donc, c'est cette forme de ravissement, comme vous dites, c'est cette espèce de passion, d'émotion très forte que l'on peut retrouver dans ces deux décors, dans ces deux cadres vraiment qui sont très différents. Alors comment, à partir de cette esquisse, Fragonard va réaliser ce tableau? Quel signe caché on va pouvoir y déceler? On va y venir. Ce sera juste après une première page musicale que vous nous avez choisie. En l'occurrence, ce sont Les yeux d'Elsa de Jean Ferrat. C'est tiré du célèbre poème d'Aragon. Pourquoi ce choix là aussi, Anne de Marnac?
Je trouve extraordinaire que Ferrat ait pu ajouter une musicalité à un poème qui est pourtant tellement lui-même musical. C'est-à-dire qu'Aragon, il travaille non seulement ses rimes finales, mais ses rimes intérieures. Il y a une mélodie extraordinaire qui se crée déjà avec des mots rares, avec des assonances. Et pourtant, Ferrat, il arrive à introduire aussi sa propre musicalité et, comme les auditeurs vont l'entendre, un crescendo où toutes les facettes beaucoup plus sombres de cet amour fou qu'a Aragon pour Elsa apparaissent.
Voilà, la passion toujours, que ce soit dans les tableaux ou dans la musique et la chanson. Eh bien, on va écouter quelques extraits de Ses yeux d'Elsa. On se retrouve tout de suite après pour ouvrir ce verrou.
Tes yeux sont si profonds, comme penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si je t'ai à mourir, tous les désespérés. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur. Tes yeux plus clairs que lui, lorsqu'une larme y luit, tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure. Tes yeux dans le malheur ouvre la double brèche par où se reproduit le miracle des rois lorsque le cœur battant ils virent tous les trois.
Voilà quelques extraits des yeux d'Elsa de Jean Ferrat d'après Aragon, le choix visuel d'Anne de Marnac, éditrice et auteure de nombreux ouvrages sur la beauté et la séduction, dont le dernier, Les liaisons dangereuses selon Fragonard, a été publié aux éditions Henri Dougier. Un livre en forme d'enquête sur le verrou, c'est l'un des tableaux les plus emblématiques de Fragonard, ce peintre de la fin du XVIIIe siècle. Alors on l'a dit, ce tableau, il va servir de pendant, de duo, de pair avec l'adoration des bergers, peint par Fragonard 2 ans avant. Et Fragonard va donc s'y atteler dans son atelier du Louvre. Alors cette scène, je la rappelle, elle représente un jeune homme qui étreint passionnément une femme tout en essayant de fermer le verrou de la chambre. Ça pose beaucoup de questions. Hein. Qui sont ces deux amants? Cherchent-ils à se cacher? Pourquoi le lit est-il défait? Enfin, je ne sais pas comment vous l'interprétez, vous, Anne de Marnac.
Ah ben précisément, ce que je trouve merveilleux dans ce tableau, c'est que c'est un éloge de l'ambiguïté et c'est un appel au spectateur. Comment lui-même peut-il déchiffrer cette scène qui semble en contenir 4 ou 5? Et le paradoxe qui n'est pas le moindre, c'est que c'est précisément une scène que ses protagonistes tentent de dérober au regard, qu'ils tentent d'interdire en fermant, en interdisant toute effraction, et nous-mêmes, nous ne cessons de la contempler.
Une toile, en tout cas, où Fragonard va prendre bien son temps, hein, parce que d'habitude, il est obligé d'aller vite, hein, de peindre très vite. Il va prendre son temps, il va faire des esquisses, il va modeler ses personnages, comme justement cette jeune femme. Écoutez.
Il prend sa palette, commence à peindre le visage de la jeune femme. Sur l'esquisse, elle a les yeux ouverts. Sur le tableau final, elle aura les paupières mi-closes, une expression plus ineffable, plus intense. Comme pâmée, le visage renversé en arrière, elle semblera s'écarter, éperdue, tout en s'abandonnant. Il y aura une ambiguïté créée par le contraste entre l'expression de son visage et son geste pour empêcher la fermeture du verrou. Elle sera blonde. Son visage sera un ovale de lumière.
Voilà, un ovale de lumière. Alors la question aussi qu'on peut se poser, Anne de Marnac, est-ce que cette femme est-elle consentante? Parce qu'elle a une main sur le visage de l'homme comme si elle le caressait ou au contraire comme si elle le repoussait. C'est une question qu'on s'est aussi beaucoup posée, notamment en cette époque post-MeToo. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah, mais on se l'est posé à tel point qu'il y a eu une historienne féministe qui a rebaptisé le tableau Le Viol, ce qui est vraiment méconnaître la littérature et les romans de séduction de l'époque. En fait, dans les romans de séduction de l'époque, qui sont un genre oublié, qu'on ne lit plus, sont mises en scène, c'est à partir de la Renaissance, et à partir de la Régence, et ça se développe sous Louis XV, des entreprises de séduction. Conquérir est notre destin, écrit par exemple Valmont dans Les liaisons dangereuses. Et il y a toutes sortes de manœuvres, on va dérober des clés à une soubrette, on va les dupliquer, on va entrer dans une chambre secrète. Mais cette séduction, elle est menée à la fois au masculin et au féminin. Et par exemple, l'année d'avant le début du verrou, il y a un romancier qui s'appelle Vivant Denon qui va publier un livre dans lequel on voit une coquette qui remarque, Madame de T, qui remarque un très beau jeune homme à l'opéra et elle va l'emmener dans sa petite maison, ces maisons qui étaient écartées de Paris. Lui va être émerveillé par ce décor, par une chambre qui pourrait être très semblable à celle que montre Fragonard.
Les femmes peuvent aussi prendre l'initiative. Hein.
Les femmes prennent beaucoup l'initiative. Et au petit matin, il va comprendre qu'il a été joué par cette femme et par qui voulait tromper son mari avec la complicité de son amant en titre. Ouais. Donc ce serait vraiment une fausse lecture que de croire que ces jeux de la coquetterie que le XVIIIe siècle va pousser, mais je dirais presque jusqu'à l'agonie, et c'est ce contre quoi se révolte finalement Fragonard et puis beaucoup d'auteurs à partir de la nouvelle Héloïse de Rousseau, ce siècle, en fait, il partage la duplicité au féminin et au masculin. Et à tel point que, par exemple, quand l'encyclopédie va donner une définition du mot séduction, ça va être de dire c'est une tromperie artificieuse. Et c'est plus que jamais la séduction, c'est vraiment le mot de l'origine latine de séduction. Monter Doukéré, c'est conduire à part, mener à part. Mmh. Et ce genre, finalement, il va s'asphyxier de lui-même et être remplacé par une littérature qui fait l'éloge du sentiment vrai.
La nouvelle Héloïse, on pourra en reparler tout à l'heure. En tout cas, dans cette scène, il y a beaucoup d'indices. Hein, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et notamment cette fameuse pomme, une pomme qui est posée sur une petite table. Qu'est-ce qu'elle représente, cette pomme? Et quel lien aussi avec l'autre pendant de ce tableau, qui est l'adoration des bergers?
Alors c'est vraiment la pomme qui peut lier les deux tableaux, et pour un amateur averti comme Véry ou pour d'autres collectionneurs de l'époque, c'était très clair. La pomme, elle représente bien évidemment la tentation. Donc la pomme
d'Ève,
elle va renvoyer à la tentation d'Ève. Et il y avait une tradition picturale qui existait par laquelle on liait souvent une tentation et une nativité. Donc, quand en fait il fait ses deux pendants, Fragonard, il reprend cette tradition picturale. Mmh. Donc, on aurait ici la tentation, Ève tentatrice, la pomme de la tentation, et puis la naissance de Jésus rédempteur. Et par là même, ces deux tableaux, ils s'inscrivent dans un grand récit commun dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et vraiment, il est important de contextualiser cette œuvre en comprenant que pas un contemporain, pas un amateur éclairé, et Dieu sait si Véry l'était, ne pouvait ne pas voir cette association entre une tentation. Et donc c'est vraiment Ève pécheresse contre la Vierge maternelle. Ces deux facettes qui sont associées.
Alors il y a une autre métaphore, hein, c'est bien sûr le fameux verrou que l'homme cherche à fermer ou ouvrir. Alors je ne sais pas s'il faut trop s'étendre sur cette métaphore, hein, sur ce quelque chose qui rentre, qui sort. Enfin bon, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail hein, pour les jeunes oreilles qui nous écoutent.
On va se dire juste que ce verrou, il est à la fois réaliste et métaphorique, parce qu'il y avait beaucoup de plaisanteries grivoises à l'époque sur ce fameux verrou. Mais il est aussi une métaphore de dérober une scène au regard, et en ce sens, c'est vraiment un enjeu littéraire très très important. Et Fragonard lui-même aussi, dans sa peinture, il représente très souvent des effractions. Par effraction, on voit quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Et il joue beaucoup avec ce thème, il s'en amuse. Et donc cette clôture du verrou, c'est d'essayer de circonscrire cet espace qui est celui de la chambre à coucher.
On va continuer à parler de ce tableau qui s'inscrit aussi dans ce contexte historique, qui n'est pas sans rapport non plus avec le fameux roman épistolaire, hein, Les Liaisons dangereuses. Et ce sera tout de suite après une petite descente au jardin, comme tous les jeudis. Alors, celui qui manie non pas les pinceaux, mais la binette et le sécateur, c'est Pascal Asp. Il est responsable des jardins au Centre écologique Terre Vivante. Et aujourd'hui, bien des conseils pour ne pas trop mal se planter.
Ah, mon petit jardin préféré que j'aime tant.
J'ai besoin de refaire un potager.
La préparation du terrain est primordiale.
Tout doux, tout ce jardin.
Et bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous vouliez nous donner quelques conseils pour bien préparer nos plantations au jardin. Pourquoi insister là-dessus, surtout en ce moment ?
Eh bien parce qu'en ce moment, ça y est, il y a tout le monde qui va se ruer sur les végétaux. C'est le printemps, le froid, les scènes de glace. S'ils sont pas passés, ça ne serait tardé. Les jardineries, les pépiniéristes vont se remplir de caddies avec des végétaux. Et du coup, j'avais envie de faire un zoom sur... C'est quoi, on va dire, les quelques commandements pour bien planter dans son jardin?
Alors, premier conseil, ou plutôt premier commandement, selon donc Saint Pascal Asp, tes végétaux adaptés à ton environnement, tu choisiras. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que, du coup, quand vous allez aller en jardinerie ou chez le pépiniériste choisir vos végétaux, vous connaissez votre jardin. Vous connaissez si dans votre jardin, il y a des coins à l'ombre, des coins au soleil. Vous savez si vous pouvez arroser ou non. Vous savez si votre sol, il est plutôt très argileux, très compact, ou plutôt aéré. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de choisir des végétaux en conséquence. Si j'ai un sol sec, je choisis plutôt des lavandes, du romarin. Si j'ai un potager à l'ombre, je vais plutôt choisir des blettes, des salades, et vraiment de me dire, je vais choisir la plante qui convient à mon environnement, parce que si je fais l'inverse, forcément le végétal ne sera pas très heureux.
Alors, deuxième commandement, je vais vous laisser reprendre votre souffle parce que je vous sens très essoufflé, hein, Pascal.
Oui, j'ai marché un peu vite pour me mettre à l'abri du vent, et du coup...
Ça se sent. Alors, deuxième commandement donc, dans un sol bien aéré, tu planteras. Là aussi, une explication?
Eh bien oui, on n'oublie pas que quoi? Que votre sol, pour être vivant, pour avoir des lombris, pour avoir des bactéries, il lui faut de l'air. Mais pour que vos végétaux aussi, leurs racines se développent bien, il faut forcément un sol un petit peu aéré. Si votre sol est compact, bien dur, eh bien les racines vont avoir du mal à se développer. Donc on n'oublie pas, avant la plantation, de bien ameublir le sol. Forcément, on ameublit aussi plus grand que la taille du pot. Hein. C'est pas juste un truc où on met pile dans la taille du trou. Et si c'est trop compact, on rajoute un peu de compost qui va amener un petit peu d'aération à notre sol.
Alors ça, c'était le deuxième commandement. Troisième commandement, un bon arrosage, tu géreras. Alors, dans quelle mesure on peut gérer cet arrosage ?
Eh bien, un bon arrosage, tu géreras, ça veut dire que juste après plantation, on n'oublie pas, la plantation est une espèce de traumatisme pour les végétaux. On les a sortis du pot, on a un petit peu manipulé les racines, on les met dans un nouvel environnement. Donc, on n'oublie pas juste après plantation de bien arroser non seulement juste après plantation, mais aussi dans les jours qui suivent, parce que si jamais il fait chaud et sec, ben, le végétal aura du mal à faire des nouvelles racines. Donc, on arrose bien et surtout, on essaye de garder l'eau après l'arrosage, ça veut dire un bon paillage.
Un bon paillage. Alors, quatrième commandement... Un bon entretien, tu feras.
Eh ben oui, on n'oublie pas qu'une fois planté, c'est pas des petits bébés qu'on abandonne, c'est comme des enfants, il faut les éduquer. Et du coup, ben, y a des végétaux qui ont besoin d'être tutorés. On sait très bien l'exemple de la tomate au potager, ou des fois l'exemple de certains asters ou des goras, des fleurs qui ont tendance à se coucher des fois après la pluie. Et donc, du coup, voilà, il y a des plantes où il faudra mettre des tuteurs, il y a des plantes qui vont être taillées de temps en temps, comme la lavande, pour garder une jolie forme de boule. Ben voilà, c'est pas parce qu'on a planté qu'on peut les abandonner. On n'oublie pas qu'il y a des gestes d'entretien tout au long de l'année, et du coup, on n'oublie pas de les réaliser.
Voilà donc pour ces quatre premiers commandements. J'ai envie d'en rajouter un troisième, ou plutôt un cinquième. Les yeux plus gros que le ventre, tu éviteras. Est-ce que ça vous va, Pascal ?
Oui, ça me va parce qu'on l'a tous fait en fait. On l'a tous fait d'aller chez le petit pépiniériste du coin, à la jardinerie, et de tomber amoureux de dizaines et de dizaines de plantes, de repartir avec le coffre plein et de s'apercevoir que l'on a seulement le dimanche après-midi de 17h à 18h pour planter les 40 pots qu'on a achetés. Donc par pitié, ben voilà, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Ouais. Vous n'achetez uniquement ce que vous êtes sûr de planter. Et puis du coup, quitte à aller une deuxième fois chez le pépiniériste quelques jours plus tard.
Eh bien, merci Pascal pour ces commandements jardiniers à inscrire sur vos tablettes. Bon jardinage à tous. Et puis pour vous, ben, un petit peu de repos végétatif, hein, puisqu'on se retrouvera non pas la semaine prochaine pour cause d'ascension, mais dans 15 jours. Profitez-en bien pour reprendre votre souffle, hein, Pascal.
Merci.
Et à très bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Tu sais quoi ? Je me demande si les iris, ils seraient pas mieux à la place des capucines. Ça serait plus beau.
T'as pas l'intention de déplacer les fleurs qu'on a plantées, là ?
Bah non, rassure-toi.
Bon.
Non, on fera ça demain.
Non, pas demain, j'ai autre chose à foutre, non.
Bon, Jean, s'il te plaît, hein !
Doudou, avec Vincent Belletti.
Et oui, question de plantation. Anne de Marnac, on parlait de nature avec Pascal Haas. Est-ce que Fragonard aimait aussi la peindre, la nature ?
Ah, c'est un peintre enchanteur et enchanté de la nature. Il, sans arrêt dans ses dessins, mais aussi dans ses toiles, on voit des jardins, des Édens rêvés, des pastorales bucoliques, mais aussi il a une façon extraordinaire de saisir lui, c'est le peintre du mouvement, donc la nature en mouvement. Donc on va voir, littéralement, on va voir le frémissement des feuilles, on va voir l'eau ondoyante. C'est vraiment le peintre des paysages.
Alors, pas de nature, hein, si l'on puis dire, à part la pomme, hein, dans ce verrou de Fragonard. On va continuer d'explorer avec vous les coulisses ou les mystères de ce fameux tableau. De même qu'on parlera cinéma avec quelqu'un que vous connaissez bien, je crois. À tout de suite.
Tout doux. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF, présentée par Vincent Belletti.
Et retour sur le plateau de Tout Doux avec notre invitée du jour, Anne de Marnac, éditrice et auteure de nombreux ouvrages autour de la séduction et des représentations de la beauté à travers les siècles. Elle vient de sortir aux éditions Henri Dougier, Les liaisons dangereuses selon Fragonard, un livre en forme d'enquête qui nous permet de découvrir l'envers du verrou, l'une des toiles les plus célèbres de ce peintre à la fin du XVIIIe siècle. Alors ce fameux verrou, il s'inscrit aussi dans un contexte culturel d'une époque qui commence, on va dire, à se lasser des tableaux, disons, érotico-libertins. Qu'est-ce qui a amené ce désintérêt ? Je crois qu'on peut parler d'un certain livre, hein, Anne de Marnac.
On peut parler du livre.
Le livre. Qui va changer les mentalités, oui.
Voilà, c'est la Nouvelle Héloïse en 1761. Et dans la Nouvelle Héloïse, on va découvrir l'éloge de l'amour absolu. C'est cet amour contrarié entre cet aristocrate, Julie d'Étanges, et le précepteur Saint-Preux. Et l'époque, en fait, C'est comme si elle renouait avec le sentiment, avec l'idée d'une effusion. Mmh. Et à partir de là, on voit un changement des sensibilités, où là où le cardinal de Bernis, il écrivait sous la Régence, quand j'entrais dans le grand monde, je trouvais que pour un homme, il était ridicule d'aimer son épouse, et pour une épouse encore plus grotesque de priser son mari. On va voir quelque chose qui se passe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir des auteurs, un auteur que lit beaucoup, Fragonard, qui est Dora, qui avait écrit des titres très, très significatifs, les malheurs de l'inconstance, les sacrifices de l'amour. Et là, il vient de publier un recueil qui s'appelle Le baiser, où il va dire, mais c'est tellement ridicule dans sa préface que de voir ces jeunes gens qui se moquent de l'amour. Mmh. Et ce mouvement n'est pas du tout, il faut pas le comprendre
comme un puritanisme, mais plutôt comme, comme une sincérité des sentiments.
C'est une sincérité des sentiments, une réciprocité des sentiments, c'est-à-dire que cet amour doit être mutuel entre le jeune homme et la jeune femme. Et il ne s'agit pas d'éluder la sensualité, mais de la relier au sentiment. Mmh. Donc c'est pas du tout du puritanisme, mais c'est le retour à la sensibilité et surtout à l'expression de la sensibilité. Mmh. Et c'est à partir de là qu'on voit dans la peinture, et Le Verrou le montre aussi, ces visages extatiques, ces visages pâmés, on voit ces lecteurs et ces gens qui pleuraient au masculin et au féminin. C'est vraiment l'expression de la sensibilité qui revient par rapport à la rationalité calculatrice, au cynisme dévoyé.
Alors, cynisme dévoyé, justement, ce tableau, Le Verrou, il a été réalisé entre 77 et 78. Or, un autre roman va aussi bouleverser l'opinion de l'époque. Quelques temps plus tard, en 1782, un petit indice sonore.
J'ai attendu 5 minutes seulement et j'étais affolée. Je m'étais persuadée que jamais plus je
ne
vous
ange.
Est-ce que c'est vrai pour vous aussi?
Oui. En ce moment, par exemple, je suis persuadée aussi que jamais plus je ne vous reverrai. Je n'en peux plus de tout ceci. Je m'ennuie beaucoup trop.
Que voulez-vous dire? Vous n'avez plus d'amour pour moi?
Mon amour a eu grand-peine à attendre que cède votre vertu. Ce n'est pas ma faute.
C'est cette femme qui est en cause.
Oh oui, je vous ai trompé avec elle, certes, mais Émilie n'est pas la seule.
Menteur! Menteur!
C'est très vrai, je suis un menteur, et c'est à l'instar de votre fidélité une évidence qui est pareillement réelle et indigeste. Et ce n'est pas ma faute.
Arrêtez de répéter cela!
Voilà, extrait des Liaisons dangereuses, réalisé ici par Stephen Frears, l'une des versions cinématographiques du célèbre roman épistolaire Les Liaisons dangereuses de Pierre Chanderlot de Laclos, un ouvrage où finalement le séducteur Valmont finissait par s'attacher à sa jeune proie qu'il voulait séduire au départ par jeu et par défi. Alors, on va pas tout raconter l'histoire parce que c'est assez complexe, hein, Anne de Marnac, mais en quoi ce roman a-t-il montré une évolution dans la littérature libertine de l'époque? Et puis surtout, quel rapport avec ce Verrou de Fragonard qui, lui, a été peint quelques années avant?
En fait, le roman, en mettant en scène des stratégies machiavéliques multiples qui sont orchestrées et par Valmont et par la redoutable marquise
de Merteuil,
ce roman, il va scandaliser. Ce roman par lettres, avec en plus un jeu très astucieux où il présente cette histoire comme si elle était vraie. Et en fait, il va scandaliser, il va effrayer, il va y avoir une sorte de prise de conscience à travers ce roman de cette perversion très particulière qui est celle du séducteur ou de la séductrice, qui est, et votre extrait était plus qu'emblématique, dont le plaisir consiste à ce que sa proie la plus vertueuse possible, la plus inaccessible, reste jusqu'au bout, consciente de son abdication morale. Tel est son plaisir. Il ne se satisfait pas d'aller voir une fille de joie. Ce qu'il faut, c'est conquérir la très innocente Cécile Volange.
Craquer
et qu'elle soit consciente. Ouais. Et c'est cette résistance. Et donc Valmont dit conquérir est notre destin. Il va multiplier les stratégies. Et Stephen Frears a pris quelques libertés avec le texte de ce dialogue de Laclos, donc que je vais restituer, ou de façon encore plus cruelle que dans votre extrait dramatique, il lui dit, il lui écrit une lettre. Qui elle-même a été rédigée par la terrible marquise de Merteuil, où il dit « je t'ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret, ainsi va le monde, ce n'est pas ma
mais
faute ».
Ce qui est intéressant aussi dans les Liaisons dangereuses, c'est que ça montre finalement que le séducteur est pris à son propre piège, c'est-à-dire qu'il s'attache à la proie hein, enfin la jeune femme qu'il voulait séduire comme ça par jeu. Et c'est ça qui est nouveau hein, dans les liaisons dangereuses.
Voilà, c'est l'extraordinaire nouveauté par rapport à tous les romans de séduction de l'époque que j'ai lus pour mes livres précédents. C'est cette émergence d'une dépossession. En fait, le roué, le libertin, il est dans la toute puissance de la maîtrise. Il maîtrise tout, il organise, il rationalise, il crée des pièges, il avance masqué, il se joue cela. Et là, il va se passer une faille, une béance, et c'est là Madame de Merteuil qui va le voir en premier. Elle va lui dire, mais oui, vicomte, elle va lui écrire, mais vous l'aimez comme un fou. Et lui, furieux, se révolte et elle va lui demander, justement, pour lui prouver qu'il ne l'aime pas comme un fou, de lui écrire cette terrible lettre de rupture. Mais même Madame de Merteuil, qui dit que le statut de veuve est le seul statut
elle
qui permet
d'avoir
une certaine liberté. Exactement, elle aussi. Alors, elle écrit une lettre, et c'est très intéressant parce que cette lettre, j'invite tout le monde à relire ou à lire les liaisons dangereuses. Dans cette lettre, son ton qui est tellement péremptoire sans arrêt, là, il vacille. Elle va dire, dans le temps, nous nous aimions, parce que vous m'aimiez, nous nous aimions, j'étais heureuse alors. Et leur vengeance à tous les deux va être terrible. Il fait pas bon être séducteur ou séductrice au XVIIIe siècle. Tous les deux ont des fins terribles. Mais la nouveauté de Château de la Clos, c'est ça. C'est de montrer que c'est l'illusion, la toute-puissance, le calcul cynique, la manipulation libertine, elle est un leurre, qu'il peut y avoir une dépossession et qu'il peut y avoir justement, et qu'il peut s'opérer ce ravissement qui à jamais change un être.
Justement, ce ravissement dont on parlait tout à l'heure dans ce verrou de Fragonard qui préfigure finalement ces liaisons dangereuses, voilà, pour ce rapport entre les deux œuvres. Alors, que va devenir ce verrou de Fragonard? Parce que son histoire, elle n'est pas terminée une fois que l'œuvre a été vendue au marquis de Véry. Mais le jeudi de la peinture, on va passer au cinéma avec notre critique maison que vous connaissez bien de Marnac, puisqu'il s'agit de Valérie de Marnac. Quel rapport familial entre vous deux?
Elle est la femme de mon frère et la très chère belle-sœur, dont j'aime l'œil aigu et sensible sur le cinéma.
Eh bien justement, on va la retrouver exceptionnellement aujourd'hui avec Pierre Hugues, tiré de la matinale, pour évoquer justement une leçon de cinéma.
Attention, moteur,
annonce.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
Coupé.
Tout doux, le film de la semaine.
À l'affiche cette semaine, une comédie romantique qui rend hommage au cinéma. C'est le film Le cours de la vie de Frédéric Socher avec Agnès Jaoui dans un rôle qui lui ressemble.
Oui, elle est toujours parfaite, hein, comme toujours, naturelle et émouvante. Alors, elle est dans le rôle d'une scénariste qui vient donner une masterclass devant des étudiants en cinéma. Alors, à l'heure où les scénaristes d'Hollywood sont en grève pour réclamer une meilleure reconnaissance et rémunération de leur travail, c'est particulièrement éclairant de découvrir à quel point c'est un vrai métier. Et le cours magistral d'Agnès Jaoui, qui est Noémie dans le film, devrait passionner tous ceux qui ont un jour ou l'autre eu envie de se lancer dans l'aventure de l'écriture.
Et c'est d'ailleurs un scénariste, Alain Lérac, qui a adapte ici son propre livre « Atelier d'écriture ».
Oui, qui est sous-titré humoristiquement « 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa vie ». Et le charme du film, il tient justement dans le scénario. Alors c'est Noémie qui a été invitée par Vincent, directeur d'une école professionnelle, pour intervenir devant ses élèves, mais aussi parce qu'il a envie de la revoir. Parce qu'ils se sont aimés il y a 30 ans, puis perdus de vue. Elle est devenue une artiste célèbre, tandis que lui a opté pour l'enseignement. Et puis surtout, ne s'est jamais remis vraiment de leur rupture. Alors à partir de cette trame, a priori classique, on découvre un peu au fil du film, ils tissent de manière très habile les liens qui existent entre la fiction et la vie, ou comment toute création artistique se nourrit immanquablement des expériences vécues et peut, en échange, changer le cours de la vie.
Pourquoi tu m'as invité?
Parce que je pense qu'il était temps de rendre hommage à ton talent.
Et il t'a fallu 30 ans pour te rendre compte de ça?
t'as vraiment pas changé.
Je crois que la première qualité d'un scénariste, c'est pas tant l'imagination que le sens de l'observation des autres et de soi-même. Et toi, t'as des enfants?
J'ai une fille et un garçon.
Ah. Avec la même mère?
Ouais, moi j'ai toujours été très conventionnel. Ah, tu te fiches encore de moi?
Comme avant.
À nous.
À nous.
Aux côtés d'Agnès Jaoui, on retrouve Jonathan Zakaï, qu'on a plus l'habitude de voir dans des seconds rôles.
Oui, et ici, il interprète un Vincent attachant qui doute. Il forme avec Noémie un couple entre légèreté et nostalgie qui nous émeut. Et puis surtout, ils évitent l'écueil de la mièvrerie. Alors juste petit bémol sur la galerie d'élèves, moi qui m'a paru un peu artificielle. Alors à part quelques scènes amusantes, j'ai un peu eu le sentiment qu'ils étaient là pour illustrer le propos. Et ça m'a laissé voilà un vague sentiment de vouloir cocher toutes les cases des problématiques des jeunes d'aujourd'hui.
Frédéric Secher, le réalisateur, a un parcours lui plutôt atypique.
Oui, il partage son temps entre sa vie d'universitaire à la Sorbonne, hein, où il enseigne et dirige un master de cinéma, et puis son travail de réalisateur, puisque c'est son cinquième long métrage. On pourrait un peu dire qu'il met en pratique son savoir, une sorte de travaux appliqués après la théorie. Et ça donne des films hybrides assez singuliers, hors des sentiers balisés du 7e art, souvent drôles. C'est un peu peut-être son côté belge, hein, mais toujours profond. Et son dernier film, Je veux être une actrice, mettait en scène sa propre fille de 10 ans. On était entre documentaire et fiction. Il explorer le métier d'acteur et on y entendait la douce voix de Michael Lonsdale nous dire que les artistes sont les témoins de l'invisible et que c'est une grâce.
Et puis on peut parler de la musique de ce film, c'est signé Vladimir Kosma.
Oui, l'immense compositeur de cinéma, des aventures de Rabbi Jacob et autres grands blonds. Alors c'est un ami de Frédéric Secher, donc il signe ici la musique originale et d'ailleurs celle de tous ses films. Et puis il apporte voilà, sa touche de romanesque et de mélancolie et il lui a aussi autorisé d'en reprendre certaines pour de jolies scène du cours de Noémie où on entend les bandes-sons des extraits de films qu'elle projette tandis que les images restent en hors-champ.
Un réalisateur et un film à découvrir dans les salles cette semaine. Le cours de la vie, c'est de Frédéric Secher et pour les mélomanes, un concert symphonique dirigé par Vladimir Kosma est proposé à Paris les 15, 16 et 17 juin prochains au cinéma Le Grand Rex. Merci beaucoup Valérie de Marnac.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà Valérie de Marnac qui s'envolera pour le Festival de Cannes qui va s'ouvrir la semaine prochaine. Elle est douée pour parler cinéma, la belle-sœur, non, Anne de Marnac?
Je vous avais dit, j'avais choisi ces deux épithètes, un regard aigu et sensible, et je pense que sa chronique l'a parfaitement illustré.
Eh ben, vous êtes pas mal non plus dans la famille hein, pour parler de peinture, justement, avec ces liaisons dangereuses selon Fragonard, le roman d'un chef-d'œuvre. C'est paru dans cette collection aux ateliers d'Ougier. On va continuer d'évoquer ce livre, de parler de ce fameux verrou, parce que l'histoire n'est pas finie une fois que cette œuvre a été livrée donc à son commanditaire, le marquis de Véry. Que va devenir Fragonard? Que va devenir cette œuvre? On va le savoir tout de suite après notre page musicale, toujours de votre choix. Et après Les yeux d'Elsa, vous nous proposez Alain Souchon, La vie ne vaut rien. Une explication à ce choix pas très optimiste, si je puis dire, Anne de Marnac.
Ah, moi, je trouve que justement, cette balade, elle peut avoir l'air désenchantée, mais en même temps, il y a dedans une extraordinaire énergie. Ce personnage, il a beau se balader partout, chercher partout si ça a vraiment du sens de l'existence, comme on va le découvrir. Mais il y a quand même un enchantement, et là encore, on retrouve un ravissement. Et c'est ce que j'aime dans cette chanson, c'est que malgré sa désespérance, parfois, sa mélancolie profonde, son regard très, très, très incisif sur la société actuelle, il y a toujours ce chant d'amour.
Ce chant d'amour. On l'écoute, Alain Souchon, on se retrouve tout de suite après.
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à un tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs. Joli petit sein de mon ami, là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. Espère dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme
sur site internet voir les gens des sectes. Et il a dit, la vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens. Mais moi quand je tiens. Là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon âme.
Ne vaut rien d'Alain Souchon, le choix qui pourtant le vaut bien d'Anne de Marnac, auteur des Liaisons dangereuses selon Fragonard, un roman en forme d'enquête où vous nous décryptez bien l'histoire du verrou, cet étreint passionné de Fragonard, un peintre de la fin du XVIIIe siècle. Justement, en quoi cette œuvre, le verrou de Fragonard, a aussi été un tournant dans la carrière de ce peintre? Est-ce que vous pourriez nous donner une explication, Anne de Marnac?
Ce qui est frappant, c'est que sa manière change. La toile, comme vous l'avez dit, est passée par plusieurs étapes, des dessins préparatoires. Il y a aussi une huile sur bois. Sa manière est beaucoup plus travaillée. Avant, les coups de pinceau étaient même apparents, tellement il peignait rapidement. Là, il y a vraiment un travail extraordinaire sur le clair-obscur, à la façon d'un Rembrandt, sur l'or, sur la pourpre. La composition de la scène est extraordinairement équilibrée. Mais je dirais surtout que il y a quelque chose qui apparaît qui est plus grave dans son œuvre. En fait, c'était un peintre très très espiègle, que ce soit en représentant des scènes d'enfants, des scènes de bergers lutinant des bergères ou des bergères lutinant des bergers, que ce soit des cache-cache, des Colin Maillard. Il y avait quelque chose de très léger, de très insouciant dans son œuvre, qu'on retrouvait aussi bien dans les pastorales que l'on trouvait dans les scènes mythologiques. Et là, à partir de là, il va y avoir quelque chose de plus profond qui se joue. D'ailleurs, ses dernières œuvres, ce seront des allégories amoureuses où on retrouve ces visages d'êtres qui sont comme dépassés par eux-mêmes, par la force de leur amour. On est dans des cadres irréels, dans une nature rêvée. Beaucoup de symboles, beaucoup d'allégories. Donc, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, oui, sa manière picturale a changé.
Et puis c'est une manière aussi de retrouver sa liberté de peindre et de fermer le verrou à des commanditaires qui lui commandaient justement des œuvres finalement auxquelles il n'adhérait plus. Hein. C'est aussi ce que vous expliquez dans votre livre. Alors, ce tableau, il va y avoir la mort du marquis de Véry, son commanditaire, en 1785. Sa collection va être dispersée, va être rattachée en duo avec une autre œuvre de Fragonard qui s'intitule L'Armoire. Alors là, on est plutôt dans la comédie, j'allais dire presque de boulevard, puisque c'est une scène où l'on voit un jeune homme bien découvert en train de lutiner, je crois, une jeune femme, et c'est donc ce duo qui va être raccroché. Et puis va survenir un autre événement qui lui va rebattre également les cartes.
Le peuple en ce jour sans cesse répète, assaillera, 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 malgré les mutins tout réussira.
À Saïra, 1789, la Révolution française. Que va devenir donc dans cette tourmente le fameux verrou? Comment va-t-il être considéré?
Alors le verrou, en fait, la peinture donc est vendue aux enchères après la mort du marquis de Véry. Les deux pendants sont aussitôt séparés. Mmh. Aucun acheteur, alors que c'est une vente qui remporte un grand succès, ne s'avise de les réunir. Donc
l'adoration qui va d'ailleurs être vendue beaucoup plus cher que le verrou. Hein. 9500 une livre, 3950 seulement pour le verrou.
Tout à fait. Et ouais. Le catalogue d'ailleurs qui avait été établi par l'expert qui s'appelle Payet était très réservé pour le verrou. C'est-à-dire que c'est un catalogue très élogieux qui rend hommage à Véry, à ses amitiés avec les artistes, mais il dit que cette scène du verrou, elle est un petit peu plus compliquée à lire et à déchiffrer que l'adoration des bergers. Mais à cette vente, on va découvrir donc une gravure, celle dont vous parliez, où c'est un peu la scène qui se répète, une chambre, mais là la porte est ouverte, des parents furieux arrivent, ce sont des paysans, le jeune homme s'est caché dans une armoire. On est effectivement dans le registre de la comédie, comme serait une fable de La Fontaine plaisante ou une scène moliéresque. Mais beaucoup plus étonnant, quelques années plus tard, va paraître une autre gravure qui s'intitule Le Contrat.
Ouais.
Alors, Le Contrat, c'est une scène, c'est une gravure, donc bien évidemment, ce sont les teintes en noir et blanc des eaux-fortes. On est dans une scène très conventionnelle, très sage, très posée. On voit un couple, ils sont en train, elle s'appelait d'abord cette scène Le Contrat de mariage, ils sont en train de signer un acte notarié, plus de cheveux épars, des costumes couvrants, un intérieur très bourgeois, plus du tout de lié en désordre, mais il y a un détail qui est très intrigant, c'est que sur le mur sont accrochées deux gravures. Et si l'on s'approche, l'on voit qu'une des gravures représente le verrou et l'autre gravure représente cette
l'armoire
rustique. Et en fait, dans ce jeu d'enchâssement, on se rend compte que c'est une œuvre qui était très importante pour Fragonard. Et l'œuvre, elle va connaître une destinée aussi intéressante parce que la gravure du verrou va remporter un grand succès. Ces peintures, en fait, elles étaient réservées aux seuls privilégiés. Personne d'autre ne les voyait. Quand le verrou apparaît dans cette vente publique, c'est la première fois que le public découvre même l'existence de cette œuvre. Et avec la gravure, le verrou, il va commencer une nouvelle carrière et on va parler de cette licencieuse gravure du verrou qu'on peut trouver partout sur les quais de la Seine et qui va essaimer partout au XIXe siècle.
Et c'est comme ça qu'on va redécouvrir donc Fragonard. Alors le fameux verrou, il est visible au Louvre depuis quand on peut l'admirer? Depuis quand il a fait son retour à la case départ, si je puis dire, puisqu'il a été peint dans l'atelier du Louvre?
Voilà, c'est pas une des choses les moins singulières de cette œuvre, qu'elle a été créée dans l'atelier de Fragonard qui était au Louvre, et 200 ans plus tard, en 1974, elle est achetée, elle revient au Louvre. Là encore, il y a beaucoup de polémiques. Est-ce que le Louvre aurait été acheté, le verrou aurait été acheté trop cher? C'était Valéry Giscard d'Estaing qui, à ce moment-là, était le ministre des Finances, qui avait poussé à son rachat. Est-ce qu'il était un faux? Est-ce qu'il était un vrai? Enfin, on voit que c'est encore une œuvre qui va s'entourer de polémiques. Et ce qui est très curieux, c'est que cette œuvre, on la redécouvre parce que Fragonard était complètement tombé dans l'oubli au XIXe siècle.
Oui, il faut dire qu'il est mort dans l'indifférence complète, le 28 juin 1806.
On l'a complètement oublié,
Fragonard.
Assimilé à un
peintre de l'Ancien Régime avec toute la décadence que ça pouvait suggérer aussi.
Et ça, il le connaît de son vivant, c'est-à-dire qu'il perd sa fille, ce qui est à partir de là, il va arrêter de peindre. Il perd sa fille Rosalie, qui avait 18 ans. Il revient à Paris pendant la Révolution française en 1793. Et là, tout a changé. Et en fait, c'est toutes ces peintures, comme les peintures comme le verrou, elles vont être dénoncées. Et elles vont être dénoncées à plus d'un titre. Elles vont être dénoncées comme des estampes flagorneuses. On dit que c'était pour flatter les commanditaires très riches qui les commandaient. Donc on va dans une nouvelle ère, alors là, radicalement différente, on va y voir l'expression de la licence des mœurs et des aristocrates de l'Ancien Régime. Et Fragonard, à ce moment-là, est décrié, il est oublié, il ne doit finalement son salut qu'à David, qui était un jeune peintre qu'il avait connu, qui là maintenant est devenu un peintre confirmé, et qui est surtout un rôle politique, et c'est Fragonard qui va vanter les mœurs respectables de... C'est David qui va vanter les mœurs respectables de Fragonard, et qui va permettre à Fragonard de retrouver son logement au Louvre.
Fragonard qui a d'ailleurs une vie familiale bien rangée, parce qu'il avait une femme et puis il avait une petite fille aussi qu'il adorait et qui a aussi posé comme modèle. Voilà donc pour l'explication et toute l'histoire de ce tableau. On se retrouve dans quelques secondes pour terminer ensemble cette émission.
Doudou avec Vincent Belletti.
Mon meilleur souvenir dans un musée, je crois que j'avais 15 ou 16 ans et on est allé visiter le musée Guggenheim. Et dès qu'on est arrivé, en fait, j'ai été absolument captivée par l'architecture de ce musée. Je trouvais que c'était vraiment sublime.
C'était le musée du Louvre en 3e, donc j'étais petit. Et donc le truc classique, on se retrouve devant la Joconde, mais en fait derrière il y a le radeau de la Méduse qui fait X mètres sur X mètres. Et vu qu'en plus moi j'étais comme ça, ça a décuplé l'effet, c'était incroyable.
C'était pour la nuit des musées, ça devait être en 2012-2013. À l'époque, j'avais un peu de mal à m'orienter. Et on s'est complètement perdu dans le musée de Cluny et on n'arrivait plus à sortir. On a énormément rigolé.
Voilà, souvenirs variés de musées à l'occasion de la 19e édition de la Nuit européenne des musées. On pourra avoir accès à tous ces lieux d'exposition, pas seulement de peintres, mais aussi de sciences, d'astronomie, de cinéma, etc. Avec des visites guidées, de très nombreuses animations. Le programme est à découvrir dans votre région sur nuitdesmusées.culture.gouv.fr et ce sera l'occasion au Louvre, de redécouvrir ce fameux Fragonard et ce fameux verrou. Au fond, et pour terminer en quelques mots, Anne de Marnac, qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans la rédaction de ce roman d'un chef-d'œuvre?
Ah, c'était de relever ce pari qui était un peu une gageure, c'est-à-dire que de conjuguer une exactitude historique totale, minutieuse, rigoureuse, je m'y suis engagée, c'est ce que je voulais faire, et de construire une narration en même temps. Mmh. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est ne jamais trop psychologiser, ne pas inventer un Fragonard dont on ne sait rien, on ne sait pas quel était son état d'esprit, ses sentiments, et je voulais un petit peu dans la construction narrative que j'ai faite du livre, procéder comme un peintre par touches successives.
Et c'est particulièrement réussi parce que ce livre se lit d'une manière très agréable, comme vous dites, par petites touches, c'est très fluide, c'est très documenté, c'est presque aussi à la manière d'un polar. Je vous recommande vraiment cette lecture pour redécouvrir Fragonard, Les liaisons dangereuses selon Fragonard, le roman d'un chef-d'œuvre, c'est paru aux ateliers Henri Dougier. Un grand merci Anne de Marnac pour nous avoir
merci
proposé cette redécouverte et d'avoir poussé ensemble ce verrou. Merci aussi à Pierre Samanos et Antoine Picot, nos deux artistes de la régie technique. Je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur RCF et également sur le site de Radio Notre-Dame. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne visite de musée puisque c'est ce samedi dans toute la France et dans toute l'Europe. Nous, on se retrouve lundi pour parler d'un jeune musicien au talent très prometteur. Il s'appelle Barcella. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame.